BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles, qui vous aide à devenir meilleur investisseur ou meilleure investisseuse. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web, vous le savez, tous les jours entre 10h et midi. Et puis on est aussi en podcast. Salut à vous qui nous écoutez à une autre heure du jour ou de la nuit. Nous sommes lundi 22 avril 2024. Au programme, le Bitcoin, le jour d'après, le halving. On va faire le point, même si pour l'instant, rien à signaler au niveau du prix du Bitcoin. On va parler également des bourses américaines ce matin. Est-ce que c'est le calme avant la tempête? Il y a toujours, vous le savez, ces incertitudes au sujet du calendrier de la baisse des taux aux États-Unis. Il y a toujours les tensions géopolitiques, mais il y a aussi les résultats de société. Ça va être dense cette semaine et tout le monde attend les résultats de la tech US. Est-ce que les 7 magnifiques ou ce qui reste de magnifiques vont donner le la de la semaine et puis peut-être porter les marchés? Réponse avec Mathias Bacino de Trade Republic d'ici quelques minutes et puis avec l'ensemble de nos intervenants au cours de l'émission, notamment avec côté bourse Antoine de Pio Renext et puis nos deux traders pour le match des traders qui sont en train de se connecter. Il y aura aussi Nicolas Dose pour votre dose quotidienne d'économie d'ici une petite demi-heure. Et puis on va poser la question qui va nous occuper cette semaine, c'est-à-dire savoir si ça va continuer de baisser ou si 7 séances consécutives de baisse, ça suffit. Qu'est-ce qu'il faut attendre? La publication de résultats de la semaine à venir, pourvu que l'IA ne nous lâche pas, c'est ce que va nous dire Thomas Veillé d'investir.ch depuis la Suisse. Julien Ebenzal d'Advice va nous expliquer l'effet de disposition, c'est-à-dire prendre ses profits trop tôt et puis laisser filer ses pertes. On fera un petit peu de psychologie comportementale. Et puis, question-réponse du jour avec Alice Labou de Trecento AM sera: mon banquier me pousse à ouvrir un contrat d'assurance vie, mais j'ai peur de bloquer mon argent et de ne pas pouvoir en disposer si j'en ai besoin. Que faire? Réponse à 11h30. Et puis pour finir, on fera le point sur l'envolée des prix du pétrole. Envolée qui reste globalement inexpliquée par tous les fondamentaux classiques, si je puis dire. Mais on verra peut-être ce qui peut l'expliquer avec Jean-François Faure du groupe Au Coffre. Au programme, il y a vous, chers auditeurs, vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre. On vous salue, vous pouvez nous écrire. L'adresse est directe à bfmbusiness.fr ou bien m'écrire sur LinkedIn directement en message privé. On répondra notamment à Nicolas qui nous demande des conseils sur des actions plus offensives avec des revenus plus récurrents, comme Vinci par exemple ou Orange, dans un contexte de normalisation des marchés. À suivre, nous partons à Euronext faire le point sur le début de séance côté CAC 40.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision. Votre rendez-vous avec eToro, plateforme de trading et d'investissement. Les traders intelligents choisissent les meilleurs outils.
Cher Antoine, on commençait pas trop mal en ce lundi matin, et puis ben, la tendance positive s'est inversée.
Oui, on recule désormais, hein, moins 0,11%, 8013 points, très curieux, hein, ce rebond totalement avorté. On avait pourtant de très bonnes indications en avant-marché, on est même allé jusqu'à plus 0,8% hein, sur la dernière heure avant l'ouverture des cotations. On a ouvert sur du plus 0,5%, et puis là, bah, on manque totalement de jus. À noter que les autres places européennes suivent un petit peu la même tendance, hein, l'Eurostock 50 perd 0,07%, on a du plus 0,19% quand même encore à Francfort, et puis le tableau qui était quasiment vide sur les baisses concernant le CAC 40, c'est rempli au fur et à mesure. ST Micro signe la plus forte baisse depuis le début de la séance. À l'ouverture, c'était la seule valeur en repli. Hein. Là, il perd 0,99%, on est à 36,35€. Mais à noter que le secteur du luxe, notamment, s'est complètement retourné. Alors, ça va être une semaine importante. On attend les chiffres d'activité d'Hermès et de Kering, notamment. Là, on a Hermès qui recule de 0,52% à 2308 points. On a L'Oréal aussi en repli de 0,98% à 440,60€. Puis des valeurs un petit peu plus cycliques qui piquent un peu du nez. Schneider Electric, moins 0,7%, on est à 206,90. Puis à noter Safran aussi, moins 0,44 à 205€. Sinon, on a pas mal de secteurs qui sont encore en pointe. Edenred en particulier qui gagne 4% à 45,48€. Hein, le titre décidément très en forme. Mais derrière, dans le même ordre d'idées, sur le SBF 120, on retrouve Elior hein, qui gagne 3,37% à 2,39€. On a Icade qui a publié de bons chiffres ce matin. Le titre gagne 3,78% à 25,26 €. Et puis à noter sur le CAC 40 aussi Unibail Rodamco Westfield, dont on attend le chiffre d'activité cette semaine, hein, qui gagne 1,8% à 76,44 €. Peut-être un petit peu de nervosité, d'attentisme des marchés par rapport à toutes ces publications d'entreprises. Encore une fois, qu'on attend, elles seront extrêmement nombreuses. Vous en avez beaucoup parlé. Il y a toute la grosse tech américaine. Il y a également de très grandes valeurs cycliques industrielles. Les pétrolières américaines aussi qui doivent publier. Et puis, il y aura quelques chiffres importants, hein, sur le plan macroéconomique, notamment la croissance américaine. Le CAC, donc, sur un début de semaine finalement plus prudent que prévu, moins 0,13%. On est à 8011 points. Du côté des devises, l'euro face au dollar cote à 1,0659. Et puis, à noter le pétrole qui poursuit sa consolidation. On repasse sous les 86 $ en ce moment, 85,92 $.
Et oui, et Antoine, on vous retrouve dans une heure pour faire le point sur la séance en cours, mais aussi pour votre histoire financière. On reparlera de l'euro, qui se tient plutôt bien en ce moment, mais on va le voir, hein, presque toutes les devises s'effondrent face au dollar américain. Il y a pas mal de choses à raconter. À tout à l'heure, cher Antoine.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Le journal de votre argent ce lundi matin avec Mathias Bacino. Bonjour Mathias.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le directeur des marchés européens pour Trade Republic. Avec vous, nous parlons du jour d'après pour le Bitcoin, c'est-à-dire le jour d'après le halving.
Et ça se passe mieux que dans le film, hein, puisque le jour d'après pour le Bitcoin, donc c'est le jour d'après le halving. Le halving, on le rappelle, c'est le fait de diviser par deux les récompenses que les mineurs reçoivent en échange de leur travail sur la blockchain donc du Bitcoin. Et pour le moment, eh bien, ça se passe très bien. Donc techniquement, ça c'est tout s'est bien passé. Hein, il n'y a pas eu de problème. C'était pas le premier. Donc la blockchain Bitcoin là-dessus est absolument solide et a prouvé une fois de plus sa résistance. Et le Bitcoin, qui avait pris plus de 50% hein, depuis le début de l'année, avait touché un record à 74 000 $ quasiment il y a quelques temps, se comporte bien. Il a été plus fort que le Nasdaq la semaine dernière. Il évolue aujourd'hui dans un range, hein, un couloir, on pourrait dire, entre 60 000 et 74 000 $. Et on peut juste rappeler que, historiquement, les périodes qui ont suivi un halving ont été des périodes de hausse pour le Bitcoin. Alors, statistiquement, c'est pas forcément toujours très pertinent de regarder sur un actif aussi jeune que le Bitcoin. Néanmoins, ça peut donner une indication. La dernière fois, donc, on avait eu plus 370% sur l'année qui avait suivi le halving. Et la fois d'avant, j'ose à peine le dire, c'était plus 7000%. Mais c'était une autre époque pour le Bitcoin.
Voilà, à suivre évidemment les jours d'après le halving. Nous ferons ça cette semaine. Et Amaury de Tonquédec fera ça tous les jours à 15h dans BFM Crypto, le club. Un mot des bourses américaines. On se demande si c'est le calme avant la tempête.
Là, on est à un moment effectivement peut-être charnière sur le marché américain, puisque les acteurs des marchés ont revu ces derniers temps leurs anticipations de baisse des taux. On se rappelle qu'au début de l'année, il était question qu'il y ait peut-être 6 ou 7 baisses de taux en 2024 de la part de la Banque Centrale Américaine. Il est très clair pour tout le monde aujourd'hui que ce ne sera plus le cas. Ce durcissement de la Fed est allé de pair avec un relatif soulagement sur le front des tensions internationales, puisque la situation entre l'Iran et Israël semble s'être calmée. En revanche, au même moment, on a les premiers résultats trimestriels de sociétés qui sont arrivés sur le marché américain, et Netflix, entre autres, qui a beaucoup déçu avec des prévisions faibles, et Nvidia, qui a décroché de près de 14% sur la semaine, Tesla dans les mêmes proportions. Donc, on a un moment de forte tension sur le marché américain qui doit décider si après avoir respiré la semaine dernière, on veut repartir de l'avant en ayant digéré le fait que les baisses de taux seraient moins nombreuses cette année et sans doute peut-être même inexistantes.
Hein, oui,
ouais, tout à fait. Et là, on aura les chiffres du PIB donc au premier trimestre qui vont sortir jeudi et surtout l'inflation qui va sortir vendredi, qui vont être vraiment essentiels hein, pour essayer de comprendre. Parce que là, les gouverneurs de la Fed n'ont plus le droit de s'exprimer désormais jusqu'au début mai. Oui. Et donc, on va suivre vraiment de près ces anticipations macroéconomiques et ces chiffres macroéconomiques. Dans les jours qui viennent, là, encore une fois, les sept magnifiques vont jouer les juges de paix. On aura Tesla, Meta, Alphabet et Microsoft qui vont publier leurs résultats trimestriels et qui sont attendus, évidemment, de manière très claire par les marchés.
Les sept magnifiques, ou en tout cas le nombre qui reste en juge de paix, on verra ça cette semaine. Effectivement, vous le rappelez, Mathias, la publication de l'indice PCE pour les États-Unis vendredi. Un petit mot de BCE avec votre pari, Mathias? On en parle souvent en préparant ces séquences avec vous. Est-ce que la BCE, pour une fois, pourrait agir avant la Fed?
Alors, on le pressentait depuis plusieurs semaines maintenant. C'était un thème, je dirais un narratif, comme on dit sur les marchés, qui commençait à voir le jour. On a eu du mal à y croire parce que c'est très rare. En tout cas, moi, depuis 20 ans bientôt que je suis sur les marchés financiers, je ne me rappelle pas la Banque Centrale Européenne avoir bougé avant
la
Fed exactement. Mmh. Donc il se passe quelque chose de vraiment très important parce que cette première, il faut en tirer quelque chose. Il faut essayer de comprendre pourquoi, quel impact ça peut avoir cette fois-ci. La présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, dont on connaît par ailleurs les ambitions politiques plus larges actuelles, a dit que son action était dépendante des données, mais pas de la Fed. Or, on sait que l'inflation en zone euro, on est à 2,4% sur un an, alors qu'aux États-Unis, on est plutôt à 3,5%. Donc là, le différentiel macroéconomique est très très clair. Ce qu'on va surveiller, c'est l'impact que ça peut avoir. Parce que les épargnants européens font face à une situation inédite, et donc il faut qu'ils aient en tête quelques repères. Si la BCE baisse les taux la première, ce qu'il faudra suivre en premier, c'est l'euro. Parce que l'euro face au dollar, si jamais l'euro venait à décaler à la baisse, bien ça pourrait être un facteur positif pour les actions européennes. C'est peut-être d'ailleurs cette anticipation qui explique la surperformance du CAC 40 depuis un mois. Il est à 2% à peu près de son record, alors que les USA, eux, ont perdu plus de 8% par rapport à leur record. Donc, on va surveiller de très près la perspective d'une baisse des taux de la BCE avant la Fed, potentiellement dès juin, parce que ça pourrait avoir un impact très fort sur les marchés européens, qui sont, on le sait, favoris des investisseurs français.
Voilà, notre BCE data dependent, enfin en tout cas Christine Lagarde data dependent. Merci Mathias pour ce tour d'horizon de l'actualité. On vous retrouve dans une dizaine de minutes avec vous. On va parler de l'IFU, document clé pour vous qui êtes peut-être en train de faire votre déclaration d'impôt, parce qu'on va parler de ce qui concerne les comptes à l'étranger, des spécificités qui concernent les comptes à l'étranger. C'est important d'être au point. Vos impôts, d'ailleurs, on va en parler largement cette semaine. La chaîne et puis Tout pour investir en particulier se mobilise pour répondre à vos questions. Dans quelques minutes, Albert Dantoir de Nalo nous rejoint, ainsi que Julie Cohen de BFM Bourse. Mais avant ça, nous passons une tête chez nos traders.
Tout pour investir, le match des traders.
Ce matin, c'est Jean-Louis Cuissac, trader pour compte propre chez Perceval Finance Conseil, qui est là avec, c'est lundi, Stéphane Sauduteil. Bonjour Stéphane. Responsable du site technicbourse.com. Jean-Louis, on va démarrer avec vous, parce qu'on était ensemble vendredi.
Bonjour.
On s'est dit plein de choses quelques heures avant le week-end, et là on voudrait savoir où on en est. Racontez-nous votre vision du marché ce matin.
Et on n'en est pas loin du même niveau en fait, parce que le marché a démarré très fort, rassuré par le fait que l'Iran ne devrait pas, pourrait ne pas relancer, augmenter sa puissance de feu par rapport à la première attaque, et surtout ne rien faire, on va dire, peut-être, je dis bien peut-être, mais cette menace reste présente et on a rebaissé là de 0,8%. C'est assez rare, c'est vrai, on a ouvert avec un gap à la hausse, donc nettement au-dessus du plus haut de vendredi, et puis on n'a fait que rebaisser depuis. Alors on a aujourd'hui quand même à noter des dividendes, ce qui fait baisser le CAC, mais mécaniquement c'est Stellantis, donc ça a un impact à peu près de 14 points, c'est pas mal. Il y a un gros dividende sur Stellantis. Elle pèse 2,8% du CAC 40. Là, maintenant, entre le futur et le cash, vous avez 57 points. Donc, les dividendes à venir, mais le taux d'intérêt qui se rajoute, pour l'instant, sur le futur, et au prorata temporis, le futur va baisser un petit peu du taux d'intérêt. Bon, cette reprise, elle est fragile. Bon, évidemment, maintenant, on le constate. Je m'attends toujours pas, moi, si vous voulez, un fort rebond des marchés, on voit pas le moteur, c'est ce qu'on disait vendredi déjà. C'est-à-dire quel pourrait être le moteur d'une reprise des marchés? La confirmation, la certitude déjà que tout ira mieux au Moyen-Orient, que l'Iran ne va pas remonter d'un cran dans l'attaque et qui est surtout pas d'attaque. Et pour le reste, c'est les taux d'intérêt. Bon, les taux d'intérêt, bah écoutez, on reste tendu encore même ce matin. Hein, d'ailleurs, l'euro-dollar ne rebondit pas. Il y a toujours des tensions assez fortes. Alors, sur le CAC 40, tant qu'on est au-dessus de 3815, moi je tente des achats. Alors, c'est le futur mai. Donc, je tente des achats et je passe vendeur. Alors, maintenant, j'ai remonté tous mes niveaux, sous 7008. On passe vendeur sur le CAC 40. Alors, c'est pareil, hein, on s'attend pas non plus à une catastrophe. Les marchés sont bien construits. On a vu tous ces derniers temps qu'il y avait zéro effet domino. Donc, voilà, on reste serein quand même dans une perspective long terme. Il y aura peut-être même des occasions d'acheter si le marché baissait d'une manière assez sensible, dans une perspective de pour les gérants, etc. Il y aura peut-être la chasse aux bonnes affaires. Pour l'instant, on peut pas déduire grand-chose de cette séance. Elle valide l'idée qu'on reste fragile. Moi, ce matin, vous voyez, mon premier niveau d'achat, c'était 7961. Là, on est à 55, on est légèrement en dessous. Donc, j'avais pris une marge déjà assez importante pour acheter. Et même sur le DAX, on était plutôt vendeur. On a vendu donc vers 18073. Là, c'était pas mal vendu. Donc, le marché, pareil, il a rebaissé. Bon, ça reste incertain. Mais c'est pas si mal que ça. Mais encore une fois, tout va tenir au Moyen-Orient.
Jean-Louis, toujours à l'achat. Et vous, Stéphane Suditeil, comment vous envisagez cette journée et comment l'avez-vous commencé depuis 1h19?
C'est vrai que on a ouvert un gap à la hausse qu'on a comblé il y a quelques minutes. C'est vrai qu'on reste dans une zone assez étriquée quand même. On est toujours en phase de consolidation baissière, mais non affirmée, on pourrait dire, entre 7900, hein, qui reste un support assez solide, et puis la grosse résistance qui empêche toute initiative vraiment haussière ou de rallier les points hauts d'il y a quelques temps. Cette zone, c'est 8100, 8080. Donc on est coincé dans 200 points de range, en attendant bien sûr des nouvelles. Alors cette semaine, on a quand même de gros catalyseurs avec les PMI manufacturiers en zone euro aux États-Unis mardi, le PIB US jeudi, et puis surtout les trois premières GAFAM avec Google, Meta et Microsoft qui vont publier cette semaine. Donc il y a matière à faire bouger certainement les lignes. Alors c'est vrai que quand on regarde les marchés américains, on se tient quand même pas si mal que ça. Alors c'est peut-être une question effectivement monétaire, avec des baisses de taux qui seraient peut-être plus rapides de la part de la BCE que de la Fed, et ce qui maintient quand même le marché sous des niveaux quand même qui restent assez solides, assez hauts. Voilà, donc on surveillera 7900 points quand même. Si on passait en dessous, là peut-être qu'on aurait une petite démoralisation et un retour sur des gaps restés ouverts à la hausse, bien plus bas, vers 7820, 7855, voire un peu plus bas encore. Mais pour l'instant, on peut naviguer un petit peu à vue entre 7900 et 8100 points.
Merci beaucoup Stéphane et Jean-Louis. Les niveaux techniques à surveiller dans Tout pour investir. À plus tard dans la semaine, messieurs. Nous continuons à débattre des sujets qui vous concernent en tant qu'investisseur particulier. C'est tout de suite.
Tout pour investir. Tout pour votre argent.
L'équipe du lundi au service de votre argent. Mathias Bacino de Trade Republic est avec nous. Rebonjour Mathias.
Rebonjour Lorraine.
Rejoint par ma consoeur Julie Cohen. Hello Julie.
Bonjour Lorraine.
Aux manettes de BFM Bourse tous les jours à 15h. Et puis Albert Dantoir. Bonjour Albert.
Bonjour Lorraine.
Notre pousseur de coups de gueule, directeur général adjoint de Nalo. Vous allez nous raconter une histoire. Ce sera l'histoire du lundi d'Albert. Mais avant ça, nous allons parler de l'IFU. Ce document très important pour votre déclaration d'impôt. Et je peux vous dire, Mathias, depuis que j'en ai parlé il y a quelques minutes, on a déjà reçu quelques messages d'auditeurs. On nous demande beaucoup de choses sur cet IFU. Expliquez-nous cet acronyme. Mystérieux.
C'est
ou pas. Pour ceux qui ont un compte à l'étranger.
C'est pas le meilleur moment de l'année pour les passionnés d'investissement et de bourse. Donc l'IFU, c'est l'imprimé fiscal unique. En le disant, j'ai la bande son de Dark Vador qui arrive derrière. Voilà. Donc l'imprimé fiscal unique, c'est ce document que vous remettent vos banques, vos intermédiaires, vos courtiers.
Ou Trade Republic en toute transparence.
Ou Trade Republic, bien sûr, pour vous aider à remplir votre déclaration fiscale. Vous devez entre autres, déclarer vos plus-values boursières, vos plus-values et vos moins-values qui peuvent éventuellement se compenser. C'est un point essentiel. Donc, La saison fiscale commence. Il s'agit de recevoir tous les IFU, donc de les demander. Vous pouvez me harceler sur Twitter pour ce qui concerne Trade Republic, ou bien évidemment demander à votre banquier, votre courtier. Une fois que vous avez rassemblé tous vos IFU sur le site impots.gouv.fr, vous pouvez effectuer votre déclaration en faisant la somme de ces différents IFU et en faisant bien attention entre les établissements qui télédéclarent et qui ont donc préfourni les données à l'administration fiscale et les établissements comme Trade Republic qui ne télédéclarent pas pour donc sur lequel vous devez ajouter vos chiffres. Bien sûr, on n'oublie pas de renseigner les sommes qu'on a versées sur un PER, par exemple, qui sont déductibles, les dons aux associations, les éventuels employés à domicile, pour réduire évidemment sa fiscalité. Et enfin, on peut préciser que pour les comptes détenus à l'étranger, il y en a eu quelques centaines de milliers en plus cette année en France, eh bien, il y a déclaration 39-16. Ça prend 5 minutes, ça fait peur, mais en fait, c'est relativement rapide. Je le fais moi-même tous les ans depuis 4 ans.
Voilà. Alors, ça se demande, vous l'avez entendu, pour pas mal d'établissements. D'autres s'occupent de télédéclarer pour vous ce document clé. Donc, faites vos devoirs. Mathias est rassurant, ça ne prend pas trop de temps. Puisqu'on est en train de parler de sujets administratifs, nous allons parler de transférer son PEA. Julie, vous avez quelques minutes pour nous convaincre que ça aussi, c'est simple et c'est facile.
Alors, je ne sais pas si je vais vraiment vous rassurer parce que ça prend un tout petit peu de temps. Alors, déjà, si vous avez besoin de changer de banque, parce que vous avez besoin de regrouper votre épargne, parce que vous voulez avoir un meilleur service client, de meilleurs conseils, bref, quelle que soit la raison, vous pouvez avoir besoin de changer de banque et donc de transférer vos comptes. C'est ce qu'on appelle donc la mobilité bancaire. Donc tout ça maintenant, c'est réglementé, c'est même simplifié, puisqu'il y a une loi sur la mobilité bancaire depuis 2017 qui permet donc de changer de banque et gratuitement, la banque s'occupe de toutes les démarches. Sauf qu'il faut lire aussi les petites lignes. Et ça, c'est valable pour les comptes bancaires. Donc, dès lors qu'il s'agit effectivement de livrets d'épargne réglementés ou de comptes comme le PEA, effectivement, tout ça, c'est exclu. Et du coup, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Il y a des points d'attention à avoir si vous voulez transférer votre PEA d'une banque à l'autre. Et là, pour le coup, ça prend un petit peu plus de temps.
Quels sont les points d'attention que vous retenez pour nous, Julie?
Alors, déjà, il faut quand même anticiper pour voir comment se passe le transfert de PEA parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Il y a la demande de transfert, son initialisation, le traitement, l'édition des bordereaux. Tout ça, ça va prendre du temps. Donc, si vous avez votre PEA bien structuré, ça peut l'impacter, ça peut le mettre en pause. Donc, voilà, il faut anticiper et prendre le temps de voir comment ça se passe. Il faut évidemment aussi vérifier le contenu de votre PEA et notamment il y a des actions qui sont susceptibles d'être impactées par ce transfert. Il y a notamment celles qui sont liées au fractionnement d'actions, au regroupement d'actions. Donc ça, c'est des points à considérer avant d'envisager un transfert. Il faut aussi prendre en compte les catégories de titres qui pourraient ne pas être acceptées par votre nouvel établissement bancaire. Et puis, c'est peut-être aussi le printemps, le moment aussi de faire un peu de ménage dans votre PEA. L'idée, c'est peut-être aussi de simplifier un peu sa composition en vous délestant de certains titres.
Impossible que vous ne nous parliez pas de frais.
Oui, qui dit transfert, il y a forcément des frais. Alors, il faut s'assurer d'avoir suffisamment de liquidités disponibles pour couvrir ces frais qui sont réglementés depuis la loi Pacte de 2019. Donc, il y a les frais d'ouverture, par exemple, qui sont limités à 10 euros, les frais de transfert et de clôture à 150 euros, les frais de tenue de compte aussi qui sont limités. Donc tout ça, il faut faire attention quand vous voulez transférer votre PEA. Il faut préparer un dossier complet. Tout cela prend du temps. Et puis aussi, évidemment, juste avant le transfert, un dernier point, pensez à annuler l'ensemble des ordres que vous effectuez en bourse pour effectivement ne pas que ça impacte vos stratégies d'investissement.
Mathias, Albert, la checklist est bonne?
Oui, après, il faut aussi s'armer de son samouraï, d'un gilet pare-balles pour les conversations avec la banque qu'on quitte. Enfin voilà, c'est
on essaie de rester positif le lundi.
Malheureusement, la fluidité du marché de l'épargne en France est encore aujourd'hui au point mort. Il y a un vrai sujet pour la fluidité du marché de l'épargne en France. Ça va au-delà du PEA. C'est le cas pour le PEA où, franchement, aujourd'hui, on en est à recommander de transférer des PEA avec uniquement du cash dessus.
C'est-à-dire que c'est... on vend tout et on transfère le cash.
Voilà, c'est ce qu'il y a de... Aujourd'hui, alors, chacun doit prendre ses propres décisions, évidemment, parce qu'il y a des incidences pour les détenteurs. Mais si on veut absolument transférer, honnêtement, aujourd'hui, le plus simple, c'est ça. Et après, on rappelle que l'assurance vie n'est toujours pas transférable en France. C'est un problème parmi d'autres, mais néanmoins un problème très important.
Il y en a qui disent que c'est plus simple d'effectuer un achat immobilier en ce moment que de transférer son PEA.
Eh ben, c'est rassurant. Voilà, parce que déjà que c'est compliqué l'immobilier en ce moment. Très sérieusement, on aurait pu faire un sujet sur la non-transférabilité de l'assurance vie, mais on a choisi plutôt qu'Albert nous raconte une petite histoire, une histoire d'économie réalisée. Justement, on parlait de gens pas contents de leur banque. On peut ne pas être content de son assureur et on peut avoir beaucoup d'argent et être très mal servi par sa banque. Racontez-nous, Albert.
Tout à fait, Lorraine. Je rajouterais juste deux points concernant l'IFU, qui est un acronyme en effet assez complexe.
Ne pas confondre avec l'IFI.
Voilà, aussi.
IFU et IFI. L'IFU.
Deux points en plus. Bien, c'est pas parce que votre déclaration, elle est, parce que j'ai fait beaucoup de déclarations d'impôts à une époque pour tout un tas de clients. Bien faire attention, c'est pas parce que votre déclaration est pré-remplie qu'il ne faut pas vérifier tout. Oui. Notamment un point. C'est que ce qui n'est pas pré-rempli, c'est ce qui est déductible. Ce qui est un peu dommage, parce qu'on peut déduire les frais, par exemple, de votre, de vos enveloppes fiscales. Et deuxième point, que Mathias, dont Mathias parlait pour les comptes à l'étranger. Donc, ça vaut pour tout un tas d'acteurs par lesquels on peut passer, et notamment la crypto-monnaie. Souvent, il y a des comptes qui sont détenus à l'étranger. Faire bien attention, parce que si vous ne les déclarez pas, par oubli, hein, souvent, ça peut être juste une petite erreur, ça coûte de l'argent. Vous avez une petite amende. Évidemment, on a le droit à l'erreur, mais pour connaître aussi un petit peu ça, faire attention à ses comptes à l'étranger, vous quel qu'il soit, même s'il y a zéro. Ouais. Même s'il y a zéro. Donc, vous avez fait un Erasmus il y a 10 ans en Irlande. Vous aviez un compte, vous avez les laissé zéro. C'est tout un bazar pour le clôturer parce que vous êtes plus là-bas. Il faut le déclarer. Voilà. Oui, donc ça, c'était juste pour préciser ces deux petits points.
En 2024, vous n'avez plus d'excuses et de ne pas savoir que, par exemple, N26, ça n'est pas français.
Voilà, par exemple.
Bon, allez, racontez-nous votre histoire.
Donc, la petite histoire qui est assez liée à ce que Julie expliquait et puis aussi un peu aux réponses de Mathias sur la transférabilité. Et c'est vrai que la problématique de la liberté des épargnants pour transférer leur argent où ils veulent, pour être gérés comme ils le souhaitent, eux, et pas comme le souhaitent leur courtier ou leur assureur, etc. J'ai rencontré une dame de 65 ans. Donc imaginez, vous avez 65 ans. Vous êtes client dans une banque depuis à peu près 40 ans, parce qu'elle y était depuis l'âge de 25 ans. Histoire très particulière avec la banque, parce que la famille très liée avec la banque dans laquelle elle était. Et puis elle se rend compte depuis 2 ans que les choses ne vont plus, malgré cette ancienneté, ces liens qu'elle avait. Je vais vous donner deux choses qui m'ont vraiment surpris et que j'ai trouvé problématique, surtout dans un pays où malheureusement on ne peut pas transférer, du moins facilement. Première chose, l'investissement, c'est-à-dire l'allocation qu'elle a dans son assurance vie. J'ai pris mon doigt tellement j'étais atterré par le nombre de lignes qu'il y avait dans le contrat. Et pour bien me dire que je ne suis pas en train de loucher, j'ai pris mon doigt et j'ai compté. Il y avait 37 fonds.
37 fonds dans une
c'est,
assurance vie.
Comme m'a dit quelqu'un, c'est plus de la diversification, c'est de l'éparpillement. Premièrement. Deuxièmement.
Rappelez-nous, en moyenne, une assurance vie, il y a combien de fonds?
Normalement, franchement, si vous vous limitez aux fonds essentiels, on va dire, et que vous partez pas dans tous les sens, moi, je dirais qu'entre 10 et 15 fonds, vous vous débrouillez très bien.
Une fois 3, quoi.
Et même quelquefois bien moins que ça. Mmh. Et quelquefois même bien moins que ça. Mais si on parle de diversification, de dilution du risque, blablabla, etc., on peut être à peu près sur ça, même, je dirais même entre 8 et 10 même. Deuxièmement, elle s'est posée la question des frais. Cette personne a une somme à 7 chiffres sur son assurance vie. Tenez-vous bien.
Ça fait à peu près 1,5 million.
Voilà, 1,5 million. Tenez-vous bien, elle paye 50 000 euros de frais par an.
Mathias est au bord de l'AVC.
50 000 euros de frais par an. Alors pourquoi est-ce que j'explique ça? C'est pas pour aller taper sur les acteurs comme ci, comme ça. C'est pas le sujet. C'est pour dire aux épargnants, lorsque vous investissez, regardez un peu ce qu'on fait de votre argent. Et vérifier notamment ces deux points. Pas avoir 50 lignes et pas avoir des frais absolument démesurés. Parce que les frais, c'est la performance négative avec une probabilité de 100%. Vous êtes sûr de faire au moins en négatif les frais que vous payez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas payer ceux qui travaillent pour vous. Ce n'est pas le sujet, encore une fois. C'est simplement d'avoir des frais qui soient cohérents. Et là, se pose la question, je reviens vers Julie et vers Mathias, du transfert. On se dit, bon, je me rends compte que les choses vont pas exactement comme je l'imaginais. Et en plus, je suis là depuis 40 ans. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément courant d'être dans une même banque depuis 40 ans. Bon. Mais au moins, si je suis pas depuis 10 ans ou depuis 15 ans, je me dis, bon, bah, je vais peut-être prendre mon compte et je vais aller ailleurs. Eh ben, gros problème, la transférabilité de l'assurance vie. C'est un sujet depuis 5 ans, depuis la loi Pacte de 2019. La transférabilité interne, c'est-à-dire au sein d'un même assureur, est possible. mais il y a des blocages, il y a des réticences, etc., etc. Et malgré même une loi qui a été votée au Sénat le 31 janvier 2023, la loi Husson-Montgolfier, qui donne un droit au transfert. Est-ce que vous imaginez qu'en France, on est obligé de faire des lois pour vous permettre de faire ce que vous voulez de votre argent? C'est quand même assez aberrant. Donc, voilà un peu mon histoire du lundi. Faites attention à ce qu'on fait de votre argent. Et vérifier un peu ce qui se passe pour et puis surtout aller voir les institutions financières auprès desquelles vous êtes pour aller un peu parler de cette transférabilité et du fait que ce n'est pas si simple que ça.
Vous êtes choqué, vous êtes interloqué. Sachez qu'à 11h30, on en reparlera de cette assurance vie et justement de vos banquiers qui peuvent peut-être vous pousser à ouvrir une assurance vie. Vous avez peur d'être bloqué. Alice Labou de Trecento AM viendra apporter une réflexion là-dessus. Mathias, le mot de la fin.
76% des Français ne comprennent pas leurs frais bancaires exprimés en pourcentage. Si vous voulez impacter fort la vie de vos enfants, de votre petit cousin, de votre neveu, apprenez-leur les frais en pourcentage. Une fois que vous avez compris comment fonctionnent les frais en pourcentage, votre vie financière change pour toujours. Donc c'est un point essentiel d'éducation financière.
Chiffrer et déchiffrer, c'est essentiel pour maîtriser ses.
Et donc je reviens, Lorraine, sur l'histoire quand même, parce que...
Pas longtemps, Réuta, parce qu'on est déjà très en retard.
Ouais, mais Réuta, elle est bloquée. Cette personne qui voudrait gérer son argent d'une meilleure manière et de façon plus cohérente, elle est bloquée. Voilà,
1,5 million bloqués alors que vous êtes cliente depuis 40 ans. Si cette situation vous parle, eh bien, écrivez-nous, partagez avec nous vos difficultés au quotidien de la gestion de votre argent. Dis donc, Mathias, on nous demande quand est-ce que Trade Republic va envoyer les IFU. Vous
avez une réponse, on est en train de faire les dernières vérifications. Là, le processus suit son cours, c'est une question de jour.
C'est imminent, Xavier, qui nous a écrit sur direct@bfmbusiness.fr. Merci, cher Julie. On vous retrouve dans et derrière BFM Bourse.
Merci,
à 15h30 tout à l'heure. Évidemment, les résultats, les publications d'entreprises qui continuent. Et puis la TQS. Qui sera sous votre radar, chère Julie. Mathias Bacino de Trade Republic, le lundi avec nous, Albert Dantoire de Nalo et Julie Cohen à votre service pour décrypter l'actualité patrimoniale en ce lundi matin. A tout de suite pour une dose d'économie avec Nicolas Dose.
Tout pour investir, dose d'économie.
Une dose d'économie et puis une question quasiment rhétorique. Est-ce que les chômeurs cherchent vraiment à travailler? Oui, répond France Travail. Que dit précisément le bilan 2023 de ce qu'on peut appeler l'héritier de Pôle emploi?
C'est exactement ça, l'héritier de Pôle emploi. Le bilan dit que dans la très très grande majorité, les chômeurs cherchent un emploi. Ils s'appellent demandeurs d'emploi, ils portent bien leur nom. 83% sur les 523 000 contrôles ont confirmé qu'il y avait une recherche d'emploi, ce qui veut dire que dans 17%, il y aura des contrôles qui conduisent à des sanctions pour des manquements divers. Mmh. C'est pas forcément le mythe du chômeur profiteur. Et des sanctions qui peuvent aller d'une radiation d'un mois à une radiation plus longue. En cas de manquement répété aux obligations de recherche d'emploi. Alors, le nombre de contrôles, je l'ai donné, 523 000 en 2023. C'est l'un des sujets sur lesquels veut appuyer le Premier ministre, puisqu'il a indiqué que l'objectif, c'était d'aboutir à 1,5 million de contrôles, trois fois plus. En 2027.
Bon, donc, ce bilan publié par France Travail aboutit au constat que les chiffres sont stables, y compris pour tout ce qui est radiation.
C'est ça. Alors, le niveau de radiation, aujourd'hui, il est à un niveau élevé, c'est vrai. Mais systématiquement, pendant la période de création d'emplois et d'amélioration des chiffres du chômage, chaque fois qu'on donnait les données publiquement dans les médias, il y avait toujours des tombereaux de réactions pour dire que tout ça était un mensonge absolu, que c'était les radiations qui explosaient et que les radiations étaient un maquillage de la réalité du marché du travail. Non, les radiations ne sont pas là pour maquiller la réalité du marché du travail et des chiffres de Pôle emploi. Il y a un deuxième aspect que je mets en avant sur ce rapport, c'est que dans les 83% que j'ai cités, eh bien, dans presque 20% des cas, ces contrôles ont permis d'identifier des gens qui avaient besoin d'un accompagnement renforcé parce qu'ils étaient un peu à la dérive. Et donc, c'est un effet positif. Ça a permis de réorienter leur parcours de retour vers l'emploi. Et troisième enseignement, c'est que malheureusement, quand même, dans bien des cas, eh bien, les chômeurs qui sortent, qui retrouvent un travail, retrouvent un travail précaire. En fait, c'est une petite minorité qui parvient à décrocher un CDI ou alors un CDD de plus de 6 mois. La grande majorité retombe sur des contrats très courts et on constate, mais on le sait déjà, que plus on reste au chômage, plus le retour à l'emploi est difficile. Le point de bascule, c'est plus de 6 mois au chômage, c'est là où l'employabilité, généralement, s'est pas mal abîmée.
Il y a l'ambition du plein emploi pour 2027. Gabriel Attal a confirmé sur BFM TV une nouvelle réforme de l'assurance chômage, là, cette année, en 2024. Qu'est-ce qu'on en connaît?
Eh bien, il y a une nouveauté, c'est que jusqu'ici, le Premier ministre laissait entendre qu'on allait surtout, visiblement, jouer sur les paramètres de la durée d'indemnisation. On est tombé à 18 mois pour la majorité des actifs, tombé à, je sais pas, à 14 mois ou 12 mois comme en Allemagne. Mmh. C'est absolument pas ce qu'il a dit jeudi dernier. Il a mis l'accent sur le fait de durcir probablement les conditions d'éligibilité à l'assurance chômage. Aujourd'hui, vous pouvez avoir à l'assurance chômage si vous avez travaillé 6 mois lors des 24 derniers mois. Mmh. Et visiblement, c'est sur ce point-là, et c'est pas celui-là qui était attendu en priorité, que le Premier ministre veut agir. L'objectif, c'est de s'attaquer à l'alternance excessive entre un emploi court, l'indemnisation, un emploi court, l'indemnisation. Je lui ai d'ailleurs dit, j'avais le sentiment que c'était la première réforme qui avait finalement essayé de mettre fin à ce qu'on appelle la permittence. Eh ben, il semblerait que ce soit aujourd'hui dans les priorités de la réforme qui va venir.
Voilà, la fin de la permittence. On a Antoine qui vous écoutait en direct pendant les experts tous les jours, de 9h à 10h sur BFM Business. Il réagissait en disant deux choses. Je suis au chômage et j'ai réussi un concours de la fonction publique. Je continue d'être payé pendant 5 mois avant de commencer ma formation en octobre. Il gonfle un peu les chiffres malgré lui. Seconde chose, en se rendant à Pôle emploi, il a rencontré d'autres usagers, et je le cite, dont j'ai jugé que plus de la moitié, en quelques secondes, étaient inemployables à cause de leur habillement, de leur attitude, de leur maîtrise du français.
Il y a plein de raisons qui peuvent faire que l'employabilité est malheureusement entachée. Il peut y avoir effectivement ce qu'on appelle le mot ne me revient pas, là, le mot anglais, les soft skills, mais c'est principalement quand même le manque de formation. Hein. 80% des chômeurs n'ont pas le bac ou le niveau bac.
La formation au secours des chômeurs. Merci beaucoup Nicolas pour cette dose d'économie à retrouver en podcast et en replay sur le site et l'application de BFM Business. Et puis pour cette séquence, cette dose d'économie, vous pouvez également la visionner sur YouTube et réagir en commentaire. C'est l'heure de s'occuper de votre culture financière, de parler de finances comportementales avec Julien Nebenzal.
Tout pour investir, les marchés et vous.
On prend ses profits et on laisse filer ses pertes. Nous allons parler de l'effet de disposition avec vous, cher Julien. Julien Nebenzal, senior advisor chez Advise. Car oui, vous êtes notre coach en finance comportementale. Qu'est-ce que c'est que l'effet de disposition et pourquoi ceux et celles qui nous écoutent ce matin doivent se sentir particulièrement concernés ?
Alors, l'effet de disposition, alors c'est un terme qu'il faut peut-être justement préciser. Ça vient de la notion de disposer de ses actifs. C'est-à-dire que quand on a des investissements, en disposer, ça signifie par exemple qu'on peut les vendre, soit pour récupérer l'argent, soit pour faire un autre investissement. Donc en fait, l'effet de disposition, c'est lié à une opération qu'on va faire sur un actif qu'on a. C'est ça que ça veut dire. Et en quoi c'est important pour tout le monde ? Eh bien, parce que cet effet de disposition, tout le monde y est soumis. C'est impossible de ne pas y être soumis. Après, ce sera à des degrés différents selon justement l'expérience, la personnalité, la volonté de progresser. Chacun pourra trouver une amélioration par rapport à ce biais. Alors ce biais, il a une origine académique. Il était connu par les boursiers il y a 30-50 ans, mais les boursiers, on leur disait, ben oui, mais vous voyez quelque chose, vous entendez quelque chose, mais on n'a pas d'écrit là-dessus, on ne comprend pas. Alors c'est Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002, qui a commencé à ouvrir bien la voie en écrivant que un individu n'a pas la même attitude selon qu'il gagne ou qu'il perd de l'argent. Il n'y a pas de symétrie en fait. Il y a d'un côté, je gagne et j'agis d'une certaine manière, de l'autre, je perds et j'agis d'une autre manière. Donc ça, c'est les travaux académiques. Et c'est aller plus loin, je voudrais citer par exemple, après je ne cite plus d'académiques.
Mais vous en citez David, autant que vous voulez, Julien.
David Hirschleifer, qui a écrit sur les biais comportementaux et qui a notamment bien décrit ce biais. Alors, ce fameux biais de confirmation, biais de disposition, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on est face à des investissements et qu'on peut réaliser quelque chose, on va avoir tendance à vendre quelque chose sur lequel on gagne. Et si on a quelque chose sur lequel on ne gagne pas ou on perd, eh bien on va avoir tendance à ne pas faire cette opération. Alors, il y a plusieurs explications. La première, c'est un rapport au temps. Il faut bien savoir que quand on va vendre quelque chose sur lequel on a un profit, eh bien on va avoir une satisfaction qui est immédiate, puisqu'on réalise un profit. Et comme la satisfaction est immédiate, si je prends une expression populaire, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, ce qui est pris n'est plus à prendre, je l'ai, j'ai gagné. Mais regardez, le même raisonnement dans l'autre sens. Je vais vendre quelque chose sur lequel je perds. Donc là, on ne parle plus de satisfaction, on parle d'insatisfaction. Mais cette insatisfaction, tout de suite, ne me rapporte rien. Je peux la décaler dans le temps. Je peux dire peut-être demain ça vaudra plus cher et je perdrai moins. Ce qui fait que le temps agit déjà comme un moteur de cette décision asymétrique entre le gain et la perte. Après, il y a les travaux de la finance comportementale qui peuvent nous éclairer sur les émotions qu'on va ressentir à ces moments-là. Quand on vend quelque chose qui est en profit, inévitablement, on a un sentiment de confiance, peut-être même de supériorité, ça arrive. On se sent, c'est une satisfaction qui donne une très bonne image de soi-même, puisqu'on vient de réaliser un profit. Et en plus, on a cette notion d'avidité, qui est pareil que nous avons tous, qui est de dire, je peux prendre ça, je le prends tout de suite. De l'autre côté, quand on est face à une perte qu'il faut réaliser, donc il faut disposer en quelque sorte, qu'il faut réaliser, d'abord, on va avoir un sentiment quasiment d'infériorité. J'ai acheté quelque chose, ça n'a pas marché. Je ne suis pas bon. C'est une image de soi qui va être négative cette fois-ci. Et cette image de soi négative, bah finalement, on n'a pas tellement envie de la développer. Et c'est plutôt la peur de mal faire et de faire encore plus mal qui va l'emporter par rapport à l'avidité dans l'autre cas. Et quand la peur l'emporte, eh bien les décisions, ça on le sait, c'est pas besoin de faire de la finance comportementale, quand la peur guide une décision, elle est mauvaise conseillère et on va faire n'importe quoi. Donc ces biais que nous avons en général expliquent, sont des biais d'émotion, expliquent pourquoi nous sommes tous tentés de prendre plus vite des profits et plus tard des pertes. Mais il y a un troisième niveau, et qui celui-là explique encore plus pourquoi tout ça c'est mauvais pour le portefeuille. C'est la finance classique dit que les cours suivent une marche aléatoire. Alors, je ne rentre pas dans ce détail académique, mais ça revient à dire que quand on regarde un cours à un jour donné, on ne peut rien dire sur le cours du lendemain. Or, la réalité, alors certains l'ont démontré, ce sont les analystes techniques de marché, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas tant que ça une marche aléatoire, puisque les cours suivent des tendances. Pendant un certain temps, bien sûr, et ces tendances changent, mais il n'y a pas de marché aléatoire. Il n'y a pas une espèce de mouvement incompréhensible. Il y a une succession de tendances. Donc, quand je vends quelque chose sur lequel j'ai gagné, je vends quelque chose qui a monté. Et comme la tendance, elle est là, eh bien demain, j'ai une bonne probabilité que ça vaille encore plus cher. Donc, je vais faire un profit, mais moindre que si j'avais attendu, à cause du fait de la tendance. Mais dans l'autre sens, si je ne souhaite pas vendre quelque chose sur lequel je suis en moins-value, c'est probable que cette chose ait baissé, donc soit dans une tendance baissière. Donc si je ne vends pas aujourd'hui en me disant je vends demain, eh bien demain, du fait de la tendance, ce sera encore moins cher. Et c'est ce qui aboutit à une mauvaise performance des portefeuilles, puisque les tendances étant présentes et nous étant attirés par prendre un profit immédiat et surtout ne pas prendre une perte, les tendances viennent accroître cette mauvaise décision.
Il ne faut pas surfer les tendances.
On a après des conséquences de tout ça, je viens de la décrire en termes de performance, mais on peut revenir au niveau de l'émotion de l'individu pour vraiment rester dans le comportement. Premier élément, c'est la frustration. Parce que quand vous vendez quelque chose et que ça monte le lendemain, vous éprouvez une frustration. Mais quand vous ne vendez pas quelque chose que vous deviez vendre qui baisse et que ça baisse encore plus le lendemain, vous éprouvez à nouveau une frustration. Qu'est-ce qui se passe, pas pour tout le monde, mais pour quand même un certain nombre d'investisseurs? Eh bien, c'est la deuxième conséquence, c'est-à-dire qu'on regarde un portefeuille où parce qu'on a vendu ce qui a monté assez régulièrement sans vendre ce qui a baissé ou ce qui n'a pas marché, ben on se retrouve avec un portefeuille avec beaucoup de trucs qui ne sont pas très jolis, avec beaucoup de moins-value. Alors, là encore, le portefeuille qu'on va regarder, c'est presque une image de soi qui nous est renvoyée. Oui, évidemment, on a gagné de l'argent à côté, on s'en souvient, tout n'est pas mauvais. Mais il nous reste quelque chose sous les yeux qui n'est pas très très positif, pas très enthousiasmant. Donc ça, c'est une deuxième conséquence relativement importante. Puis la troisième, alors que tout le monde ne rencontre pas, mais enfin, ça arrive, il faut le citer, c'est qu'ayant vu ce portefeuille où il reste finalement beaucoup de pertes pendant des semaines ou des mois, eh bien à un moment, qu'est-ce qu'on fait? On décide classiquement de le liquider, de le céder, de ne plus le voir. Et c'est pas forcément une mauvaise décision d'ailleurs. Et puis, d'une certaine manière, on repart à zéro. On refait un autre investissement. Ou on change d'approche. Très bien. Mais la conséquence négative, c'est que le plus probable, une fois qu'on a fait ça, c'est qu'on va oublier toutes les raisons qui nous ont amenés là. C'est-à-dire qu'on va oublier qu'on a compris, qu'on a vendu trop tôt ce qui montait, qu'on n'a pas assez vite coupé ce qui baissait. Et donc, on a beaucoup de difficultés à appréhender ça et à progresser. Alors, vous me demandiez au début, est-ce que ça touche tout le monde? Je vous disais oui, mais il y a des gens qui surmontent très bien ça. Une manière de le surmonter, c'est d'en être conscient, c'est-à-dire de savoir que quand on veut prendre un profit, peut-être qu'il faut réfléchir, puis-je attendre un petit peu. Et quand on voit un investissement qui part pas très bien, on se dit oui, mais si je vends pas, j'ai pas perdu, donc je vais attendre. Peut-être commencer déjà par réduire ne serait-ce que la ligne et commencer à avoir ses actions en connaissance de ce biais comportemental, ça va vraiment améliorer les performances financières générales du portefeuille.
Vous nous dites apporter un peu de gris. Tout n'est pas blanc ou noir. On doit ajouter un petit peu des nuances de gris.
Des nuances, exactement.
Merci beaucoup, Julien Nebenzahl. Son éclairage en finance comportementale sur ce qu'on appelle l'effet de disposition. Attention à ne pas prendre ses profits trop tôt et au contraire à laisser filer ses pertes. À retrouver en podcast et en replay sur notre application, Julien Nebenzahl de l'équipe d'Advise. On va continuer à parler finance. On va continuer à décrypter ce qui est décryptable en ce lundi matin avec Thomas Veillet. En direct avec nous depuis la Suisse. À tout de suite.
Tout pour investir, le coach.
Votre coach du lundi depuis la Suisse en duplex avec nous, c'est Thomas Veillet. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Thomas, vous êtes chroniqueur, rédacteur, auteur, youtubeur, écrivain. On retrouve votre plume et votre douce voix matinalement sur investir.ch. On va essayer de comprendre lignes directrices de la semaine sur les marchés qui s'annoncent. On va parler un peu d'IA, parce qu'on commence à se faire peur en se disant que si l'IA nous lâchait, eh bien, ça va pas très bien se passer cette semaine côté bourse. Mais avant ça, on va commenter, on va décrypter tout ce qui baisse. Il y a plein de choses qui baissent. Il y a d'abord les marchés qui baissent, les taux qui baissent, ou en tout cas ne montent pas pour l'instant. Puis il y a les tensions aussi, au Proche et Moyen-Orient qui baissent. Est-ce que tout ça va continuer à baisser? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, investisseurs particuliers, Thomas?
Là, aujourd'hui, on a besoin que les tensions baissent, hein, surtout au Moyen-Orient. On l'a vu qu'il ne s'est rien passé ce week-end, les gens sont beaucoup plus confiants, on est beaucoup plus relax. Mais c'est vrai qu'on a d'autres problèmes à côté qui sont des problèmes liés quand même globalement au marché qui finalement nous ont un petit peu traumatisés depuis quelques jours, puisqu'on a dû changer notre perspective, changer notre manière de voir les choses. On a dû quand même, depuis une semaine, faire le deuil, entre guillemets, de cette baisse des taux attendue et prévue aux États-Unis depuis des mois. Et on est passé à autre chose, on s'est rassuré en se disant qu'on allait se concentrer sur l'excellente économie américaine, sur les excellentes performances des sociétés américaines. Et puis là, on se rend compte que finalement, les chiffres sont plutôt bons, parce qu'on l'a vu la semaine dernière que c'était plutôt bon en termes d'attente et en termes de chiffres. Le seul problème, c'est que les sociétés elles-mêmes n'ont pas de visibilité, comme nous, on n'en a plus aujourd'hui. Et cette absence de visibilité sur le futur fait que tout d'un coup on doute, et on l'a vu sur l'ASML, on l'a vu sur Taiwan Semiconductor, et puis surtout on l'a vu, et c'était l'exemple le plus flagrant lié à l'IA, puisque Supermicro la semaine dernière a simplement annoncé, est venu faire ce qu'on appelle un pré-annoncement pour ses prochaines publications des résultats, et depuis quelques mois les boîtes d'intelligence artificielle comme Nvidia ou comme Supermicro viennent nous faire des annoncements dithyrambiques en disant ça va être formidable, on va faire des chiffres fantastiques. Et là, on attendait de nouveau un pré-annoncement fantastique de SMCI, de Supermicro, qui sont arrivés vendredi dernier en disant oui, on va publier nos chiffres le 30 avril. Mmh. Et puis plus rien. Et on attendait beaucoup plus. Le fait qu'ils disent rien, ils n'ont pas dit que ça allait mal, ils n'ont pas dit que ça allait être une catastrophe, mais ils n'ont pas dit que ça allait être extraordinaire non plus. Donc, le marché qui aujourd'hui, comme le disait l'intervenant précédent au niveau de la psychologie de marché, on a peur, on a de nouveau peur, on a quitté notre zone d'extrême greed, là où on était il y a encore quelques semaines, et aujourd'hui on a peur. Donc quand tout d'un coup on vous donne quelque chose comme ça, ou plutôt l'absence d'informations rassurantes, eh bien ça lâche, vous êtes à la veille du week-end, on ne sait pas ce qui va se passer au niveau du Moyen-Orient, et ça lâche. Donc on a eu un bain de sang technologique qui était... Alors maintenant, ce qui est assez drôle, c'est que finalement, tout le monde vous dit « Oui, mais c'était attendu, on savait que ça devait se produire. » C'est phénoménal, parce que tout le monde savait que ça allait baisser, comme tout le monde savait que ça devait monter. Et puis maintenant, on se dit « Quid de la suite ?» Et ce matin, ce qui est encore plus formidable, c'est qu'on se dit « Ah, ça va beaucoup mieux au Moyen-Orient, et les tensions baissent, donc le marché peut respirer, et on parle éventuellement d'un rebond. » Donc on voit toujours, et encore, qu'on a une vision extrêmement court-termiste et qu'on a beaucoup, beaucoup de peine à se projeter pour l'instant, et c'est ce qui crée cette incertitude dans les marchés. Alors, est-ce que ça va baisser encore? Bien malin qui pourrait le dire. D'un point de vue purement technique, c'est pas beau ce qui est en train de se passer, et j'ai presque envie de dire autant qu'on nettoie encore un petit peu avant de rebondir.
qu'on nettoie encore un petit peu, ça se matérialiserait de quelle manière sur les marchés ?
Bah, alors, d'un point de vue purement technique, parce que fondamentalement, aujourd'hui, on sait qu'on attend plus grand-chose du niveau macro. En fait, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que dans l'investissement, aujourd'hui, on a trois piliers. On dit toujours qu'on a trois piliers. On a la macroéconomie, on a la microéconomie, et puis on a la géopolitique. Et depuis quelques temps, si on regarde ce qui se passe dans les marchés, les gens se concentrent principalement sur la macro. On a beaucoup parlé d'inflation, on a beaucoup parlé de croissance économique. Et puis là, on se rend compte que l'inflation, elle est difficilement... On a de la peine à la battre. Alors, les Européens s'en sortent mieux que les Américains, mais aux États-Unis, ils ont de la peine. On voit aussi, de l'autre côté, que le prix à la pompe ne baisse pas. On voit que les matières premières sont en train d'exploser. On a vu encore le cacao qui a pris 20% la semaine dernière. Évidemment, on se nourrit pas tous de cacao, mais enfin bref, ça fait quand même mal. Et puis donc, on a tout ça qui part à la hausse. De l'autre côté, sur le côté micro, les chiffres sont bons. Mais on sent une certaine instabilité de la part des sociétés qui ne savent pas vraiment où elles vont. Et puis pour terminer, eh bien, vous avez le dernier pilier, la géopolitique, dont on a eu le talent de se moquer pendant plusieurs mois. Et tout d'un coup, on se dit, mon Dieu, que pourrait-il se passer ? Et c'est vrai, quand on dit aujourd'hui les tensions au Moyen-Orient vont mieux, il faut être honnête, ils se détestent toujours autant. Hein. Donc a priori, c'est pas parce qu'ils se sont rien mis sur la figure pendant le week-end que c'est terminé. Oui. Donc on espère que ça va se calmer et puis que c'est juste momentané. Mais globalement, on voit quand même que le marché pourrait être, et je mets ça au conditionnel, pourrait être victime d'une nouvelle incertitude si ça se prolongeait comme ça. Maintenant, si ça doit baisser encore, on voit assez facilement que les marchés sont très sensibles aux moyennes mobiles. Donc on peut aller chercher encore, on dirait, 5-7% plus bas pour aller chercher les moyennes mobiles, puis dire on a nettoyé finalement, on a fait craquer les gens. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que le syndrome contrariant dont je parlais déjà dans une précédente émission, aujourd'hui, les gens sont de nouveau en train de retourner la veste dans l'autre sens. Il y a deux semaines, on était très très positif, et là, on est déjà en zone très très négative avec beaucoup de peur. Donc la volatilité remonte, les gens ont moins d'appétit au risque, on réduit l'exposition, ça pourrait encore peser quelques temps, mais effectivement, ces trois piliers sont tous à un niveau d'instabilité assez élevé, chose qu'on n'a pas vue depuis bien longtemps.
Merci beaucoup Thomas Veillé pour votre regard sur, eh bien, vous l'avez dit, nos trois piliers macro, micro, géopolitique, ce qui fait bouger les marchés. Est-ce que ça va continuer à baisser ? Est-ce qu'effectivement les performances liées à l'IA vont continuer à soutenir les marchés ? On aurait pu parler de l'or avec vous. On fera le point sur l'envolée du prix de l'or en fin d'émission, parce que cette envolée, elle reste aussi globalement assez inexpliquée par ces piliers, par ces fondamentaux classiques. C'est pas l'inflation, c'est pas les taux réels, et c'est pas tout à fait l'aversion au risque qui explique l'envolée de l'or. Il y a d'autres choses. Ces autres choses, nous les discuterons, nous les évoquerons, nous les décortiquerons avec Jean-François Faure du groupe Au Coffre dans trois quarts d'heure. Merci Thomas. Thomas depuis la Suisse, investir.ch, l'équipe qu'on salue, à retrouver aussi sur leurs différents supports. Et puis cette chronique est à retrouver sur LinkedIn, sur bfmbusiness.com, sur notre site et l'application. Thomas Veillé qu'on retrouvera la semaine prochaine. Pour l'heure, nous allons marquer une petite pub. Vous êtes très nombreux et nombreuses à réagir ce matin, notamment au sujet de l'assurance vie, de ce qu'on peut faire avec son assurance vie, de ce qu'on ne peut pas faire avec son assurance vie. On va essayer de vous répondre avec Alice Labou vers 11h30 parce qu'on va parler de ces situations où on vous force une assurance vie, on vous la suggère très fortement, vous êtes coincé dedans. Ces sujets très pratico-pratiques, on va les aborder tout à l'heure, dans une grosse demi-heure. Avant ça, nous parlerons immobilier. Et puis, vous l'avez entendu, en fin d'émission, nous ferons le point sur l'or. A tout de suite, après une courte pub.
Tout pour investir sur BFM Business.